Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 10 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer, les titres. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, remplace le chef d'état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly. Au Sénégal, à la suite de sa condamnation, l'opposant Ousmane Sonko appelle à son tour à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur lui pour la présidentielle de 2024. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, critique l'action de la force régionale déployée dans l'Est. Au Soudan, plus de 700 000 déplacés, des civils réclament des armes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a remplacé hier le chef d'état-major général des armées par le ministre de l'Habitat. Le général Sadiba Koulibaly quitte ses fonctions quelques jours après son passage à la télévision nationale pour répondre aux rumeurs sur ses relations avec le chef de la junte au pouvoir en Guinée. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
C'est un jeu de chaises musicales entre les deux hauts gradés de l'armée. Ibrahim Assoury Bangoura, devenu général du brigade lundi, est nommé chef d'état-major général des armées. Il remplace ainsi le général Sadiba Koulibaly, qui occupe désormais le poste de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Il y a quelques jours, l'ex-chef d'état-major général des armées avait fait un passage à la télévision nationale pour rassurer les Guinéens. « On a beaucoup à faire que de nous livrer à des guerres d'égo », avait-il affirmé. Une réponse à ce qu'il avait qualifié de rumeur concernant ses rapports avec le président de la transition. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a fait écho mardi aux appels à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur lui pour la présidentielle de 2024 à la suite de sa condamnation. Ce qui s'est passé hier est une pièce de théâtre dans laquelle les rôles ont été attribués, a déclaré hier soir M. Sonko lors d'une allocution vidéo. Cela ne remet nullement en cause nos projets, a-t-il assuré. M. Sonko a souligné être plus que jamais candidat à la présidentielle de février 2024. Plus tôt dans la journée, appel de la coalition d'opposition Yehu Askan, qui signifie « libérer le peuple », appelle à la mobilisation Michel Joseph.
L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a appelé les Sénégalais à se mobiliser à l'occasion d'une marche déjà programmée pour vendredi et une nouvelle manifestation annoncée pour le 19 mai pour soutenir Ousmane Sonko. La peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée lundi en appel peut entraîner sa radiation des listes électorales. Absent à son procès lundi, M. Sonko, 48 ans, est resté muet et il ne lui reste que 4 jours pour déposer un recours devant la Cour suprême. Son autre procès dans une affaire de viol présumé est prévu le 16 mai. Il a déjà annoncé dimanche qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges. L'opposant crie au complot pour l'écarter de la présidentielle de 2024 et assure qu'il ne va pas se laisser faire. Sa condamnation a causé des troubles sporadiques à Dakar et en province. Les autorités avaient interdit de nombreux rassemblements et déployé un dispositif policier massif. Après des victoires communes en 2022 aux élections locales et parlementaires, des signes de discorde sont apparus au sein de l'opposition et ses appels à manifester ont eu un écho limité ces derniers mois.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a critiqué hier la force militaire régionale déployée par les États d'Afrique de l'Est pour stabiliser l'Est de son pays, laissant entendre que les troupes pourraient partir d'ici fin juin. S'exprimant lors d'une visite au Botswana, M. Tshisekedi a fait part de ses inquiétudes quant à ce qu'il a appelé la cohabitation entre les rebelles et la force qui a commencé à se déployer à la fin de l'année dernière. Des dizaines de groupes armés sévissent dans l'est de la RDC. Toujours dans cette région congolaise, plus de 670 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge au cours des deux dernières semaines d'avril, alerte l'ONG Médecins sans frontières. Du 17 au 30 avril, 48 nouvelles victimes de violences sexuelles par jour ont été prises en charge par les équipes de MSF dans les camps de déplacés autour de Goma, capitale du Nord Kivu. Près de 60% d'entre elles avaient été agressées dans les 72 heures précédentes, indique MSF. L'immense majorité des victimes sont des femmes et plus de la moitié d'entre elles racontent avoir été agressées par des hommes armés. Au Soudan, l'exode des civils s'est accéléré avec plus de 700 000 personnes déplacées par la guerre, deux fois plus qu'il y a une semaine, a annoncé hier l'ONU, alors qu'aucune solution n'est en vue après plus de trois semaines de combats, Claire Morin-Gibourg.
Pillage et combat ont continué pour le 25e jour consécutif à Khartoum. À Port-Soudan, une ville côtière à 850 km à l'est de la capitale, des centaines de membres des tribus Béja ont manifesté en réclamant des armes pour combattre aux côtés de l'armée. La foule scandant non aux négociations. Le conflit a déjà fait plus de 750 morts et 5 000 blessés. Près de 150 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, tandis que les déplacés internes sont plus de 700 000 selon l'ONU, plus du double par rapport aux 340 000 comptabilisés mardi dernier. Beaucoup ont fui Khartoum, une ville de 5 millions d'habitants, où ceux qui restent vivent barricadés chez eux. Hier, des combats ont eu lieu dans plusieurs quartiers. Avant la guerre, un Soudanais sur trois souffrait de la faim et l'ONU a averti que si la guerre se poursuit, jusqu'à 2,5 millions de personnes seront menacées par la faim.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril dans une nouvelle vague de violence extrême dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, la capitale, a alerté hier l'ONU, Nanit Talani.
Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, au moins 846 personnes ont été tuées au cours des trois premiers mois de l'année et 395 autres enlevées. Le haut-commissaire Volker Türk dénonce un cycle de violence sans fin et souligne que la violence s'étend à mesure que les gangs cherchent à étendre leur contrôle. Des zones de la capitale, auparavant considérées comme sûres, comme Kinskoff et Pétionville et le département de l'Artibonite, sont désormais touchées. Le rapport recense des tireurs embusqués ouvrant le feu sans discernement sur des passants et des personnes brûlées vives dans les transports publics. Le rapport signale aussi l'émergence de groupes d'autodéfense appelés brigades de vigilance pour lutter contre les gangs. Ces groupes qui pratiquent des lynchages collectifs ont entraîné la mort d'au moins 75 personnes, dont 66 membres de gangs. Lors de sa première visite officielle en Haïti en février, M. Türk a encouragé la communauté internationale à soutenir le renforcement de la police haïtienne et de déployer en urgence une force de soutien, mais pour le moment, aucun pays n'a répondu à cet appel.
Rien n'a bougé, mais la discussion continue. Le président américain Joe Biden et des ténors de l'opposition ont campé sur leur position hier sur la dette publique américaine alors qu'un défaut de paiement menace à court terme, Jacques Aristide.
J'espère que ce président comprend qu'en tant que dirigeant de cette nation, vous ne pouvez pas tenir le pays en otage, a déclaré le républicain Kevin McCarthy à la sortie d'un entretien dans le bureau ovale. Selon le président de la Chambre des représentants, rien n'a bougé après un échange d'une heure avec le dirigeant démocrate et trois autres leaders du Congrès. Mais Kevin McCarthy a signalé que les mêmes protagonistes se retrouveraient ce vendredi, ce qu'a confirmé le président Joe Biden, lequel s'est voulu un peu plus optimiste lors d'un échange avec les médias. Le locataire de la Maison-Blanche a parlé d'une rencontre productive et a promis qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter un défaut de paiement de la première puissance mondiale, ce qui n'est jamais arrivé. Ce n'est pas une option, a-t-il martelé. Le président a même jugé possible, si le blocage se poursuit, d'annuler un voyage devant l'emmener dans une dizaine de jours au Japon, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, afin de renforcer les alliances américaines dans la zone Asie-Pacifique.
L'ancien président Donald Trump, qui espère reconquérir la Maison-Blanche en 2024, a été jugé responsable par le jury d'un tribunal civil de New York de l'agression sexuelle en 1996 de l'ancienne journaliste E. Jean Carroll, à qui il devra verser 5 millions de dommages et intérêts. Monsieur Trump trouve ce verdict une honte. La Minute Éco, Nani Talani.
Les perspectives économiques du Niger sont favorables à court et moyen terme, avec une croissance projetée à 7% cette année, indique le FMI. La hausse sera tirée par l'achèvement de l'oléoduc, qui va entraîner une augmentation de la production pétrolière et la poursuite de la reprise de l'agriculture. Néanmoins, ces perspectives positives sont soumises à des risques baissiers, notamment ceux liés aux vulnérabilités au choc climatique ainsi qu'à la situation sécuritaire, prévient le FMI. La croissance du PIB du Cap-Vert devrait se fixer à 4,4% en 2023 à mesure que la hausse des exportations se normalisera. L'inflation devrait atteindre 5,2% alors que les prix du carburant et des denrées alimentaires baissent. Le déficit du compte courant devrait se creuser, les exportations de biens et de services, le tourisme, les envois de fonds et les investissements directs étrangers ralentissant par rapport à 2022. Terminons par la Guinée où, selon la Banque mondiale, le manque d'investissement dans le capital humain augmente les risques de pauvreté chez les femmes et leur participation au marché du travail demeure inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne en termes de qualité de l'emploi marquée par l'informel et la vulnérabilité. Les Guinéennes semblent aussi désavantagées dans l'accès à la propriété et aux finances.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Champions League, le Real Madrid accroché un partout à domicile par Manchester City.
Manchester City est allé décrocher un bon match nul, un but partout sur la pelouse du Real Madrid hier mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'égalisation de Kevin De Bruyne d'un superbe tir lointain à la 67e minute place les Anglais en ballotage légèrement favorable avant le retour à Manchester mercredi prochain. Le Real avait ouvert le score par Vinicius en première période à la 36e minute.
Et ce mercredi, Milan face à l'Inter, duel Maignan contre Onana, n'est-ce pas Eric?
Ah oui, une finale au bout des gants, Idrissa. Si l'AS Milan et l'Inter Milan ont gagné le droit de se disputer une place en finale de Ligue des Champions, ils le doivent beaucoup à Mike Maignan et André Onana, deux gardiens encore en première ligne lors du derby ce mercredi en demi-finale aller. Le portier français a retrouvé immédiatement son meilleur niveau avec les Rossoneri, malgré 5 mois d'arrêt dû à une blessure au mollet qu'il a privé du Mondial 2022 et son homologue camerounais affiche des progrès constants et une régularité nouvelle avec les Nerazzurri.
Espagne, le Barça se déplace le 6 juin à Tokyo.
Le FC Barcelone disputera un match amical à Tokyo le 6 juin contre le club japonais du Vissel Kobe où évolue l'ancienne gloire du Barça Andrés Iniesta, a annoncé le club catalan hier mardi dans un communiqué. Les Blaugrana mettront un point final donc à sa saison avec un match amical. L'équipe de Xavi Hernandez voyagera donc jusqu'à Tokyo pour jouer le 6 juin au Japan National Stadium avec 80 000 places. Le club catalan ajoute que la délégation du Barça voyagera directement depuis Vigo une fois son match comptant pour la dernière journée de Liga terminée et reviendra à Barcelone juste après le match amical.
Athlétisme, duel Jacobs-Curley sur 100 mètres.
Le champion olympique face au champion du monde, l'Italien Marcel Jacob et l'Américain Fred Curley vont s'affronter sur 100 mètres au meeting de Ligue de Diamants de Florence vendredi 2 juin. annoncé les organisateurs mardi, un événement rare hors des championnats internationaux. Le duel entre Jacobs et Kerley, 28 ans, tous les deux, aura lieu à 2 mois et demi des championnats du monde à Budapest, 19-27 août, les deux sprinters.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au 25e jour de combat consécutif, la situation à Khartoum reste désespérée. Depuis le 15 avril, les affrontements ont déjà causé la mort de plus de 750 personnes et forcé près de 150 000 à fuir leur foyer. La violence continue de ravager la ville, laissant de nombreux civils piégés dans une situation précaire et incertaine. Eric Manirakidza a joint à Khartoum notre confrère Salah Mohamed El Hassan Osman.
On s'est réveillé ce matin avec les sons des avions militaires qui survolent les cieux de Khartoum. Les anti-craft, les anti-avions, l'artillerie et toutes sortes d'armes. Et c'est pareil, des Dorman, Khartoum Nord et Khartoum. Ça s'est calmé un peu maintenant, depuis le midi, mais le matin c'était infernal.
Comment vous vivez actuellement?
On vit difficilement à cause de ces coupures d'électricité, de l'eau potable, le manque de tout. Alors on vit une vie difficile et maintenant c'est le pire et qu'il y a des pillages. Les pillages commencent à se répandre dans les trois villes d'Omdurman, de Khartoum. Omdurman, Khartoum Nord et Khartoum.
Est-ce que la trêve annoncée est respectée?
Non. Pour moi, respecter la trêve, ça veut dire que je n'entends pas les avions militaires qui volent, je n'entends pas de bus qui explosent, je n'entends pas les échanges d'artillerie. Et tout ça, on le vit. S'il y a une trêve, ce n'est pas respecté.
Y a-t-il une lueur d'espoir de voir les combats s'arrêter?
En fait, moi, personnellement, je ne suis pas optimiste et je pense que la plupart de la population de Khartoum n'est pas optimiste à ce propos. Il y avait un espoir avec le début des négociations à Jeddah, en Arabie Saoudite, mais puisque ça fait 3 ou 4 jours que les négociations ont commencé sans résultat sur le terrain. Alors les gens commencent à perdre l'espoir.
Et quelle est l'alternative actuellement?
En fait, au niveau de la population, il y a un mouvement pacifiste, qu'on peut dire, des gens qui disent non à la guerre et qui demandent qu'on l'arrête tout de suite. Mais c'est faible, mais commence à gagner de terrain chaque jour. Maintenant, il n'y a personne qui soutient la guerre, sauf les officiers islamistes et leurs partisans du régime déchu.
Joint hier à Khartoum, Salah Mohamed El Hassan Al-Osman, journaliste et habitant de Khartoum.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans l'est de la RDC, plus de 5500 personnes restent introuvables 4 jours après les pluies qui ont causé des inondations dans plusieurs villages du territoire de Calais dans le sud Kivu. Les morts se comptent à plus de 411. Eddie Isango a joint hier l'administrateur du territoire de Calais, Thomas Zirim Waba Gabo Bakenga.
Depuis hier, on était à 400, mais maintenant là, nous sommes à 411. 11 corps est déjà trouvé sans vie. Il y a encore, disons, 6 corps qui ne sont pas encore inhumés, ensevelis. Mais nous sommes à 412, 11 corps déjà retrouvés et ensevelis. C'est encore provisoire.
Et quelle est la situation de survivants?
Ils sont consolés parce que ce n'était pas facile à gérer sur le plan psychologique. Mais l'appui du gouvernement national, local au niveau de la province, a amené un souffle et une consolation pour la communauté, ce qui est pour nous une satisfaction et à nos autorités. Vous voyez la présence de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui est aux côtés permanents de sa population. Et hier, quand il a décrété une journée de deuil national, ça nous a beaucoup réconfortés. Nous avons vu des visites de partout et nous étions très, très consolés, comme l'avons toujours été depuis le vendredi et après la soirée du sinistre. Donc psychologiquement, la tension est plus ou moins stable, bien que les soucis des survivants restent toujours permanents.
Est-ce qu'on connaît les nombres de ces gens qui ont survécu? Combien sont-ils? Dans quel état vivent-ils?
C'est très difficile pour le moment. C'est très difficile d'avoir les chiffres exacts par rapport aux survivants. Parce que la catastrophe a tout balayé, elle a tout emporté. Il y a d'un côté, on a balayé les villages, l'autre côté, on a balayé et on a inondé. Ceux qui sont survivants, ceux qui se sont sauvés, ils ne sont pas encore de retour, ils sont en train de venir à moitié, un petit nombre. Dans le 72 heures, on pourrait trouver peut-être un chiffre exact qu'on peut proposer pour avoir plus de précision, mais sinon... nous sommes en train de voir certains, ils sont encore un petit nombre. Et voilà ce qu'on peut vous dire en quelque sorte. Parce que maintenant, nous imaginons qu'il y a plus de 5000 disparus. Vous imaginez, là on a perdu plus de 5000 personnes. Et imaginez, sitôt, typiquement, les nombres survivants, ça sera très difficile avant 48 heures.
Joint hier par Eddie Isango, Thomas Zirim Waba Gabo Bakenga, l'administrateur du territoire de Kalehe dans le sud Kivu.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Mali, suite à la convocation du collège électoral par les autorités en vue du référendum du 18 juin prochain, l'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré la presse pour faire le point sur les dispositions prises à son niveau pour la réussite du scrutin. Le point avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
C'est dans le but de rassurer l'opinion que s'est tenue, selon les responsables de l'autorité indépendante de gestion des élections, cette conférence de presse. Selon Mustapha Cissé, président de l'EJE, la convocation du collège électoral est conforme au texte.
Donc la convocation du collège électoral, je voudrais vous dire, a été faite en totale concertation avec l'EJE, l'autorité indépendante des élections, puisque vous savez, au regard des dispositions de l'article 148 de la loi électorale et des autres dispositions subséquentes de la loi, la convocation du collège électoral est une prérogative des pouvoirs publics.
Installé à la mi-janvier, nombreux sont les observateurs qui se posaient la question sur la capacité de l'autorité indépendante de gestion des élections d'assurer la bonne tenue de ces élections à travers ces démembrements. Sur ce point également, le président Mustapha Cissé a tenu à apporter des réponses.
L'installation des coordinations de l'EJ, c'est un processus. Ce processus a démarré et nous avons accompli aujourd'hui plus de 90% de cette étape procédurale.
Enfin, la fameuse question sur la tenue du scrutin avec la carte biométrique sécurisée a été tranchée par Mustapha Cissé.
Au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi, il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeurs qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les pièces d'identité légalement reconnues à la République du Mali qui permettent d'identifier l'électeur.
Si l'on ne sait pas avec exactitude les pièces qui pourront servir en plus de la carte biométrique pour le référendum, les responsables de l'EJE ont promis plus d'informations dans les jours à venir. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais condamné en appel à une peine de 6 mois avec sursis. Cette décision pourrait compromettre son éligibilité et sa participation à la présidentielle de 2024. Elle divise les Sénégalais qui se défoulent aussi sur les mauvaises pratiques des hommes politiques, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Juridiquement acceptable mais politiquement désastreux, voilà l'analyse de Badara Diatta suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis. Pour ce comptable, la probable inéligibilité du leader de PASTEF pour 5 années peut rapidement provoquer des heurts dans le pays.
Côté juridique, c'est pas sévère, mais en tant que citoyen, moi je le déplore. Parce que déjà, nous ne pouvons pas être dans un pays où il ne doit pas y être, ou y avoir, même je devrais dire, de potentiels candidats. Nous sommes dans un pays pauvre où pas mal ou bien en majeure partie les jeunes ne travaillent pas. Et ils se voient par rapport au programme de leur leader. Donc avec cette décision, il y aura beaucoup de jeunes, ou bien de gens je dirais même, qui vont être motivés donc de sortir ou bien de se plaindre ou bien de montrer qu'ils ne sont pas d'accord.
De son côté, Ablaye Niang minimise les choses et pense que l'effritement actuel de l'opposition fait que ce qui s'est passé en 2021 ne peut pas se reproduire.
Il y aura certainement des manifestations ça et là, mais je ne pense pas que les violents affrontements de mars 2021 qui avaient fait 14 morts puissent se reproduire parce que l'opposition n'est même pas sincère. Donc elle ne pourra plus mobiliser les Sénégalais à ce point.
Matar Fall se veut républicain malgré ce verdict qu'il ne cautionne pas totalement. Pour ce vendeur de quincaillerie, il faut éviter de fragiliser les institutions et les laisser accomplir les missions qui sont les leurs.
La vie ne se limite pas au présent. Il faut penser au futur et à toutes les conséquences qu'auront les actes que nous posons aujourd'hui. Si chacun se fait justice, ce sera le désordre et la porte ouverte à toutes les dérives. C'est mieux de laisser la justice faire son travail, mais il faut cependant que l'impartialité demeure. La politique de deux poids, deux mesures ne peut pas être pérenne dans un état de droit.
Renvoyant dos à dos le pouvoir et l'opposition, Ablaye Niang, qui a eu à servir le pays sous les drapeaux et en tant que diplomate, regrette que les hommes politiques bloquent le développement du Sénégal.
Les hommes politiques ne parlent que très rarement de programmes et de projets de développement. Leur cheval de bataille est la politique politicienne. Comment aller aux élections? Comment accepter la candidature de celui-ci, refuser celle de celui-là? Les politiciens sont tous pareils, car ils ne s'occupent que de leurs intérêts, pas de ceux du peuple.
À Dakar, c'est calme pour le moment, 24 heures après le jugement de Ousmane Sonko. Maintenant, il a 5 jours pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. La coalition d'opposition Yewi Askanui appelle à la mobilisation. Il faut que le peuple se mobilise pour soutenir Ousmane Sonko, a déclaré Khalifa Sall, l'un des chefs de file de cette coalition. Même si certains citoyens ne sont pas d'accord avec le verdict, ni avec l'attitude des politiciens, ils jugent que cette condamnation ne devrait en aucun cas être une source de tension ou d'émeute dans le pays. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.